Patricia, la chronique, le podcast qui vous veut du bien. Bonjour, auditeurs et auditrices de RLP, ma radio préférée. Aujourd'hui, jeudi 20 février, il fait un temps printanier, ouais, c'est la rime, mais je ne sais pas s'il faut vraiment s'en réjouir. Bref, je suis accompagnée aujourd'hui à la technique par Emma et cette nouvelle chronique s'appelle Hippocrate ou Hypocrite. Cette nouvelle chronique pour dire du bien, mais pas que, sur le monde médical. Et oh là là, il y a tellement à dire. Si vous avez déjà écouté mes chroniques, il ne vous aura pas échappé que j'étais infirmière. Avant d'être à la retraite. À la retraite, mais pas en retrait. Il ne vous aura pas non plus échappé que les autres, ont toujours été importants pour moi. Dans ma pratique professionnelle, bien sûr, mais aussi dans ma vie en général. L'écoute, la tolérance, le respect de la dignité, de l'environnement, font de moi quelqu'un de profondément humain. Ces qualités, mises au service du plus grand nombre, m'ont permis d'exercer un des plus beaux métiers, infirmière. Infirmière, je le suis devenue après avoir connu celui d'agent hospitalier, puis aide-soignante. Une évolution plus que normale et naturelle pour moi. Du balai à la toilette et de la toilette à la perfusion, face à moi, face à nous, toujours. Des êtres humains, des patients, comme on les appelle. Et il en faut de la patience quand le corps se met à déconner et que l'on se retrouve dans un cabinet médical pour une consultation, ou pire, dans un lit d'hôpital. Des patients, donc, j'en ai vu des milliers pendant ces 37 années de vie hospitalière. Et avec eux, j'ai essayé d'être la plus humaine, la plus compréhensible, la plus respectueuse possible. Autant faire se peut. Il y a eu, au cours de ces années, des moments où je ne l'ai pas toujours été à la hauteur, et ce pour de multiples raisons, notamment la surcharge de travail, la fatigue donc, les dysfonctionnements institutionnels, ils étaient nombreux, les dysfonctionnements d'équipe, bref. Encore aujourd'hui, je fais mon mea culpa de n'avoir pas toujours su rester pro. Mais jamais, jamais je n'ai été dans le jugement de valeur, l'humiliation, l'irrespect, le mépris. Le milieu hospitalier est un milieu hyper organisé avec deux pôles distincts. Les soignants et son management autoritaire et les médecins. Ces deux pôles sont, eux aussi, hiérarchisés, ce qui engendre des égalités au sein d'une même fonction ou de l'infériorité par rapport à d'autres, tout cela sur fond d'égocentrisme. Et je dois dire que des égos surdimensionnés, j'en ai croisé bon nombre au cours de ma carrière et que ceux-ci n'ont pas toujours été de bons soignants. Des petites phrases du genre « Je sais mieux que vous, je suis aide-soignante. Je sais mieux que vous, je suis infirmière ou docteur. » Étaient et sont, hélas, toujours fréquentes. Au-delà du fait de vouloir asseoir sa position par ces petites phrases anodines en apparence, il y a aussi toutes les attitudes qui tendent à ignorer la souffrance, l'inconfort, la peur, la pudeur, l'incompréhension et qui rendent l'hospitalisation, l'état de dépendance et de vulnérabilité face à la maladie, inconfortable, insupportable, inhumaine. Alors, que dire de ce jeune interne qui suture une épisio sans anesthésie à une femme qui ne crie pas mais bouge un peu ? Mais enfin, madame ! Arrêtez de bouger, ça ne fait pas mal. Que dire de cette aide-soignante qui, pour ne pas être dérangée la nuit, met des protections, des couches quoi, à des personnes âgées continentes, en insistant sur le fait que cela sera plus facile pour elle. Pour elle, mais pour qui ? Pour la soignante ou pour les personnes âgées ? Que dire encore de cette infirmière refusant de prendre en charge un homme blessé pour lui refaire un pansement au prétexte qu'il n'était pas en règle avec ses papiers ? Ou bien de ce médecin qui refuse de prendre en charge un enfant avec 42 fièvres au prétexte que sa mère porte des dreads et que cette dernière, bien sûrement, pour avoir de quoi se shooter ? Enfin, que dire ? Du dossier perdu d'un homme ayant subi une intervention chirurgicale des plus délicates, dont le pronostic est le handicap. Cet homme, mon ami Lionel, a vécu les pires situations et la torture face à des gens foutistes à cause du manque de professionnalisme. Il a failli être amputé suite à une succession d'incompétences crasses, de négligence, de manque de réactivité. Que dire ? Que dire ? Que dire ? Je pourrais vous en raconter des milliers, des histoires comme celle-ci. Où est la compassion dans toutes ces situations ? Et je rappelle que la compassion en latin veut dire « compatior », ce qui veut dire « souffrir avec ». C'est être porté à percevoir et à ressentir la souffrance d'autrui. Ces histoires, donc, se sont déroulées sur un espace-temps assez long et en milieu hospitalier. Pour expliquer ces drames et peut-être comprendre leurs auteurs, je préciserai que, mais ce n'est pas une excuse en soi, que l'institution hospitalière, les établissements de santé en général, quels qu'ils soient, sont maltraitants avec le personnel. Et par voie de conséquence, même si ce n'est pas normal, logique, cela n'en reste pas moins humain, le personnel le devient à son tour, maltraitant. Vous n'êtes pas sans savoir que les conditions de travail se sont beaucoup dégradées au fil du temps. Et en 37 ans de carrière, j'ai pu observer le lent et inexorable travail de sape de ces services publics indispensables. Oh, bien sûr, il y a eu des prises de conscience générales au moment de la crise sanitaire. Nous avons applaudi les soignants, nous avons reconnu leur talent, leur dévouement. Des promesses ont été faites. Mais cet élan de soutien, cette solidarité, tel un soufflet, est vite retombé. Et les promesses n'engagent-elles pas celles et ceux qui y croient ? Et aujourd'hui, le constat est toujours le même. En pire, je dirais. Les délais d'attente aux urgences sont de plus en plus longs. C'est la galère ensuite pour trouver un lit. Les soignants sont sous pression, les chefs de service alertent, et rien. Rien. Ou encore, des promesses. Toujours des promesses qui ne seront, une fois de plus, pas tenues. Tiens, une anecdote récente. Une amie à moi se rend aux urgences. Elle souffre, le martyr, d'une torsion ovarienne. La torsion ovarienne est une urgence. Le risque étant de perdre ovaires et trompes si un acte chirurgical n'est pas pratiqué rapidement. Elle souffre donc le martyr. Mais elle attend, car on doit d'abord faire les étiquettes. C'est important, les étiquettes, je vous le concède. Mais il y a urgence. Donc, une fois les étiquettes faites, elle attend de nouveau. Enfin, au bout d'un certain temps, elle est installée dans un box. Noir. Oui, noir. Il n'y a pas de lumière. Ce qui peut être bien quand on veut se reposer. Mais quand on sait qu'il va y avoir des prélèvements sanguins, cela devient un problème. Mais les prélèvements sanguins ont été faits à la lueur d'un téléphone portable tenu par une aide-soignante. Alors je lance en ligne une idée de cagnotte pour offrir à tous les soignants des lampes frontales. Je suis sûre, hélas, que vous aussi avez été victime ou témoin de situations dramatiques. Certes, Elles restent peut-être marginales, mais elles doivent être racontées, dénoncées. Dans la lutte contre les maltraitances, toutes les maltraitances, celles infligées en milieu hospitalier doivent l'être. Évident, mais pas facile. Je vous l'accorde. Le docteur ayant depuis toujours cette aura protectrice que nul n'ose émettre la moindre critique. Mais ça, c'est à l'hôpital. Qu'en est-il de la médecine de ville ? Qu'en est-il des déserts médicaux, des fermetures des services d'urgence de proximité, des services de maternité ? Il n'est pas normal, il est même dangereux de devoir faire 40, 60, 80 kilomètres même pour être soigné ou pour accoucher. Pour un gouvernement capitaliste comme le nôtre, l'hôpital n'est pas rentable. Mais, et ça c'est l'ancienne syndicaliste qui parle, la santé n'est pas une marchandise dont les usagers et les soignants seraient des denrées périssables. Je me doutais bien, en venant m'installer en Dordogne, que j'allais rencontrer certaines difficultés pour trouver un médecin généraliste ou tout autre spécialiste que je devrais consulter à un moment donné. Oh là là, que le parcours fut long. Ce fut la galère pour trouver un dentiste, un ophtalmo, un hépatologue. Et quand c'était trouvé, les dates de rendez-vous étaient fort, fort loin. Délai variant entre 6 mois et 1 an. Mais j'étais contente d'avoir un rendez-vous. Mais attention, il ne faut pas l'oublier, ce rendez-vous. Ce qui me paraît difficile dans la mesure où vous recevez 2 ou 3 SMS pour vous le rappeler. Et puis, il y a aussi, et ça c'est un scandale, des spécialistes qui vous sortent comme ça de leur patientèle si vous ne les avez pas consultés depuis 1 an. Qui, sauf problème particulier, va voir son ophtalmo tous les 6 mois ou son dentiste tous les 6 mois? Que dire aussi des divers généralistes rencontrés? 4 en 5 ans! Sacrée performance, n'est-ce pas? Pas de chance pour moi, le premier médecin est parti à la retraite peu de temps après le début du suivi. Nouvelle galère donc pour en trouver un autre. Alors si vous n'êtes pas trop exigeant sur les qualités humaines attendues, et le temps et le professionnalisme consacrés à votre prise en charge, cela peut aller. Car 10 minutes maximum par patient, ça coince. Le minimum de civilité comme le bonjour disparaît au profit de carte vitale, s'il vous plaît, ça coince. La méconnaissance totale de votre dossier, surtout si vous souffrez d'une pathologie lourde et qui vous oblige à répéter encore et encore le pourquoi de votre venue, ça coince. Rappelez votre traitement, ça coince. Pas d'auscultation, pas même une tension prise en 1 an, ça coince. Des erreurs de prescription se répétant de mois en mois, provoquant des surdosages, mettant en grande difficulté le patient obligé de se sevrer. Là, ça coince beaucoup. Le refus de prise en charge si vous êtes à la CMU, ça coince. Le rendu de votre carte vitale en échange d'un chèque, ça coince. Et je ne parlerai pas des violences gynécologiques faites aux femmes, des camisoles de force pour les psys, etc., etc., etc. Ça coince. Vraiment, ça coince beaucoup. Ces situations, je les ai rencontrées où elles m'ont été racontées. Je ne vais pas continuer cette liste interminable sur ces comportements inadaptés, inhumains, non professionnels. Mais ce qui me choque, c'est cette distance froide de ces praticiens. La distance froide peut être entendue de la part d'un technicien. Le chirurgien est un technicien. Il œuvre, il vous fait un compte-rendu factuel de votre opération. Le médecin généraliste, lui, se devrait d'avoir plus de compassion. Bref, passons. Ces comportements sont quand même à dénoncer sur la place publique. Des comportements qui devrait faire perdre le droit d'exercer, même s'ils sont incompétents, ces médecins resteront et continueront à mal prendre en charge, car des ponts en or leur sont construits pour aller travailler là où il y a des besoins. Quel mépris! Mais, car il y a un mais fort heureusement, un jour, vous vous retrouvez face à quelqu'un, quelqu'une, qui vous accueille, vous écoute, prend le temps, cherche à vous connaître, vous ausculte et avec qui vous vous sentez en confiance. Quelqu'un d'humain, quoi ! Vous avez du mal à y croire. Ce qui fut le cas avec le docteur Durier quand j'habitais en région parisienne. Big up à lui. Ça peut vous sembler dingue, mais lors de ma première consultation avec mon nouveau médecin généraliste, ici, le docteur Cognet, pour la nommer, j'étais ravie. Je suis sortie de la consultation avec le sourire jusqu'aux oreilles. Elle m'avait réconciliée avec le médical, avec les généralistes. Eh oui, c'est encore possible de trouver un docteur qui est autre qu'un prescripteur dépourvu d'empathie, de compassion. Trouvez celui ou celle qui vous redonne votre place d'être humain dans toutes ses dimensions. Dans de précédentes chroniques, je parle beaucoup du docteur Baptiste Beaulieu. Je vous rappelle, docteur Baptiste Beaulieu est un médecin généraliste qui, après avoir été urgentiste, est aussi écrivain, blogueur, animateur sur France Inter dans « Grand bien vous fasse » et qui est aussi médecin militant pour les droits LGBT+. Ses livres sont des pépites que je vous invite à lire. Ils sont pleins de poésie, ils sont bouleversants, pleins de tendresse. On rit, on pleure, car c'est toujours d'une grande humanité, tout comme ses interventions dans « Grand bien vous fasse ». J'ai d'abord aimé l'écouter. Je l'aime encore plus depuis que je le lis et je suis devenue une inconditionnelle. J'aurais aimé travailler à ses côtés et j'aimerais le rencontrer pour lui dire combien je l'aime, combien c'est une belle personne, combien ses patients ont de la chance de l'avoir comme médecin et surtout, combien il fait du bien dans ce monde devenu tellement froid. Triste, terriblement inhumain. L'amour de l'autre, l'amour des autres, est le bien le plus précieux. Et ces médecins, je les espère, nombreux, n'ont pas oublié ce pourquoi ils ont choisi ce métier, qui est un véritable sacerdoce. Je dédie donc cette chronique à mes amis, à toutes celles et ceux qui ont vécu le pire. Je ne peux réparer le mal qui vous a été fait. Mais je suis toujours honteuse de la profession à l'énoncé de vos récits. Je dédie cette chronique aussi à tous les soignants, où qu'ils soient, quelle que soit leur fonction, mais qui ont toujours à cœur de nous prendre en charge dans le respect, la dignité, le professionnalisme et l'humanité. Cette chronique aussi pour rendre hommage à tous les médecins. Merci, docteur Durier. Merci, docteur Baptiste Beaulieu. Merci, docteur Cognet et tous les autres qui sont là quand rien ne va et qui portent en eux cette humanité essentielle. Vous êtes des exemples dans notre société qui s'obscurcit de plus en plus. Vos regards de compassion nous font tant de bien. Merci, merci, merci. Et nous allons nous quitter en écoutant « Soigner encore », un cover de « Danser encore » de HK. Merci de m'avoir écouté.
Vous savez, quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien. Et là, en ce moment, ça se joue à rien. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant.
Je compte sur vous.
Ah oui, vous pouvez compter sur moi. L'inverse reste à prouver.
Non, non.
Alors c'est une démission administrative, c'est-à-dire qu'on continue à soigner nos patients, à assurer la sécurité des soins dans nos services, mais on ne veut plus discuter avec la direction en particulier de finances. c'est maintenant un sujet qui est devenu insupportable.
Pourquoi ?
Nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Oh non, 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 nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore.
Nous sommes des héros de passage, vite oubliés, faussement comblés. Prends ta médaille et fais silence. Sois bon en toutes circonstances. Un seul mot d'ordre, l'obéissance.
L'hôpital public en souffrance. C'est compliqué, faut en parler, faut continuer la résistance. Faire preuve de désobéissance. C'est le temps de l'inobservance.
Wow, 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 wow.
Pas la lune, seulement de quoi nous recevoir. Mais ceux d'en haut n'entendent pas ceux d'en bas quand on reste enfermé dans sa tour d'ivoire. Vous ne demandez pas le moule, seulement le minimum vital. Mais la vie a un prix dans ce bas monde et le monde d'en haut ne retient que ce qui est rentable. Vous ne demandez pas l'impossible, seulement d'ouvrir un peu les yeux, vu que les leurs regardent ailleurs quand l'hôpital meurt à petit feu. Vous ne demandez pas grand chose, surtout pas partir en guerre, vu que la guerre ça prend des vies. Mais sauver des vies, ça vous savez faire.
Nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Oh non, 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 nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore.
Ostro-boulot, robot, c'est trop, pas les moyens. C'est la consigne, austérité sur ordonnance.
Et malheur à celui qui pense. Et tant pis pour la bienveillance.
Le management autoritaire et tous leurs comptes d'apothicaire font s'envoler nos espérances.
Ils font preuve de tant d'indécence, mais n'auront pas notre conscience.
Oh non, 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 non. Continuez à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Oh non, 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 nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore.
Essentiel, mot a priori banal, se définit dans le petit Larousse, page 430, comme essentiel, absolument nécessaire. Santé et culture se rejoignent sur l'essentiel. Essentiel pour continuer à vivre, essentiel pour reposer nos corps, essentiel pour apaiser nos âmes. Artistes et soignants unis dans la volonté de continuer à soigner, continuer d'aider les âmes à aller mieux, encore et toujours essentiel, essentiel, essentiel.
Surtout sachez ne pas oublier que malgré toute cette souffrance, notre passion on l'a dans la peau. Pour le sauver, pas besoin de héros, laissez-nous faire notre boulot.
Une seule devise pour l'hôpital, pas de retour à la normale, alors restons solidaires. Au bout du tunnel, la lumière, on sortira tous de cet enfer.
Oh non, 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 nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Oh non, 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 nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore.
Oh non, 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 non.
Nos soignants qui se battent aujourd'hui pour sauver des vies se sont hier battus, souvent pour sauver l'hôpital, notre médecine. Beaucoup a été fait, sans doute pas suffisamment vite, pas suffisamment fort. L'engagement que je prends ce soir, pour eux et pour la nation tout entière, c'est qu'à l'issue de cette crise, un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières sera construit pour notre hôpital. C'est ce que nous leur devons, c'est ce que nous devons à la nation.
Mais oui, c'est ça, on fait le même boulot, soigner les corps, soigner les cœurs, prendre soin de nous. On veut continuer à soigner encore. Je connais pas encore les paroles, mais je vais les apprendre. On lâche rien.
Patricia, la chronique, le podcast qui vous veut du bien.